France Culture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître un invité pour décrypter avec lui son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invité est un inclassable. Enraciné dans son territoire de la Marne depuis 4 décennies, il est maire du village de Vanneau-les-Dames pendant 30 ans, comme son père avant lui. Bar-le-Duc à l'est, Saint-Dizier au sud et au sud-ouest, Vitry-le-François. Conseiller général pendant 39 ans, député depuis 1993, les routes de la 5e circonscription, il les parcourt du vendredi au lundi, sans exception. Pas question de rester à Paris, les 253 communes qu'il connaît comme sa poche n'attendent pas. Même au fond du fossé après un accident de voiture, il est encore pendu au téléphone à dicter des amendements. Moine soldat pour les uns, Che Guevara de la Marne pour les autres, sa seule boussole est familiale. Il a le même âge que François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, mais où se situe-t-il vraiment ? Aujourd'hui, au groupe Liot, qui soutiendra-t-il en 2027 et quelles sont ses ambitions ? Qu'a-t-il vu et compris de la politique française depuis toutes ces années ? A-t-il des regrets et des conseils sur le budget, lui qui a refusé d'entrer au gouvernement de Michel Barnier ? Charles de Courson est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le député Liot de la Marne, rapporteur général du budget. Et merci à vous de nous écouter. Nous enregistrons cette émission un mercredi, ça ne pouvait pas être un vendredi. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Les mises en garde contre la France et le dérapage de ses finances publiques se multiplient. La mise sous tutelle du pays par le FMI, est-ce un scénario plausible à vos yeux ?
Ah ben, si on continue comme ça, oui, c'est ce qui nous arrêtera. Mais j'espère qu'il y aura enfin une majorité pour mener une politique sérieuse de redressement des finances publiques. Puisque la dérive, elle n'est pas récente. Ouais, elle n'est pas récente. Et quand vous avez un président de la République qui vous explique dès qu'il y a une crise, on peut y aller, hein, les problèmes budgétaires, c'est pas un problème. Bah voilà, on se trouve aujourd'hui dans une situation très difficile. Le grand problème politique, c'est y a-t-il une majorité pour faire une politique de redressement dans la justice des finances publiques ? C'est ça la grande question.
Parce que sans majorité, pour vous, on ne peut pas y arriver.
Non, on peut pas y arriver. Entre, si vous voulez, ceux qui font croire aux Français qu'il suffit d'augmenter la pression fiscale sur les riches. Bien entendu. Alors le problème, comme disait Coluche, qu'est-ce qu'un riche ? Alors Coluche le définissait très bien. Et riche, celui qui gagne plus que moi. Vous voyez ? Donc où est-ce qu'on est ? Et ceux qui veulent faire une politique de la hache, il y a une stratégie entre les deux de la réduction de la dépense publique dans la justice.
Mais étonnamment, vous avez refusé, vous, d'entrer au gouvernement de Michel Barnier. Vous auriez pu la mener peut-être, cette politique-là ?
Non, parce que quand Michel Barnier me l'a proposé, j'ai dit, écoute Michel, pour redresser les finances publiques, il faut un, du temps, tu n'en as pas, et deux, il faut une majorité solide et cohérente, que tu n'as pas. Donc, non, je reste rapporteur général du budget, j'y serais d'ailleurs peut-être plus utile que d'être ministre du budget. Et son gouvernement a duré 3 mois, et François Bayrou, combien de temps durera-t-il ? Il n'a pas la durée pour lui.
Est-ce que malgré tout, il faut aller chercher ces 40 milliards d'euros comme le fait le gouvernement de François Bayrou ?
Oui, on peut discuter à 5-10 milliards près, mais c'est entre 30 et 40 milliards si vous voulez redresser et respecter nos engagements européens, qui est de revenir en 2029. On a obtenu 2 ans de rabat, si je puis dire, en 2029 à 3%. Mais moi, je dis souvent, un pays qui croît à peine de 1% sur longue période ne peut pas se payer un déficit public de 3%. On peut se payer entre 1,5 et 2%, car le déficit de fonctionnement de la France, c'est massivement un déficit de fonctionnement et pas du tout pour investir. Ouais. On s'endetterait pour investir, mais pas du tout. Je vous donne les chiffres. Le déficit budgétaire de l'État, grosso modo, c'est 155 milliards l'année dernière. Bah, là-dessus, il y a 120-125 milliards de déficit de fonctionnement. Donc on s'endette pour payer les salaires des fonctionnaires, pour payer des prestations sociales, etc. Et sur la sécurité sociale aussi. Et on voit que la réforme des retraites qui avait été présentée comme le moyen de redresser et d'équilibrer les régimes de retraite, c'est entièrement faux. Le régime de retraite continue à s'enfoncer, moins vite que si on n'avait pas fait la réforme. Mais on a bloqué le pays, je dirais, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait s'y prendre pour réformer le régime de retraite.
En 2007, vous faites partie de l'équipe de François Bayrou pour la présidentielle. Vous participez à son projet et vous dites à l'époque dans Le Monde, le déficit actuel de l'État ne soutient plus la croissance, mais au contraire la freine.
Bien sûr.
20 ans plus tard, rien n'a changé.
Mais bien sûr. Mais c'est l'un des grands remords de ma vie. C'est qu'avec les gens raisonnables à l'Assemblée nationale de différents groupes politiques, on n'a jamais réussi à convaincre dans chacun de nos groupes, nos collègues, de dire il faut aider le gouvernement à réduire la dépense publique. Et lorsque M. Le Maire a été auditionné par la Commission des Finances sur la dérive des finances publiques, au lieu de répondre aux questions, il a attaqué la représentation nationale dont il a fait partie, je me permets de le rappeler, en disant « vous ne m'avez jamais aidé et vous êtes tous là à demander des dépenses nouvelles ». Ça n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas digne d'un ancien ministre du budget qui a été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans.
Est-ce que vous pensez, Charles de Courson, vous qui avez été élu député toutes ces années, qui avez suivi ce sujet des finances publiques de près, qu'on arrive à la fin d'un système? Et je prends un seul exemple, c'est celui de la TVA. La TVA, d'ailleurs il y a un débat en ce moment, vous nous direz ce que vous en pensez de la TVA sociale. Faut-il augmenter la TVA pour augmenter les salaires ou trouver de nouvelles recettes? La TVA, c'est un tiers des recettes de l'État. Et donc c'est basé sur la consommation des gens. À l'heure du dérèglement climatique, est-ce que c'est pas un peu incongru?
Non, mais je pense qu'il y a une absence de réflexion sur le fond. La TVA sociale, qui l'a lancée, c'est Jean Arthuis. Bon. C'était l'idée suivante.
Un centriste.
Un centriste, oui, un ami centriste. Quelle était son idée? En disant, augmentons les taux de TVA, puisqu'on est un peu en dessous du taux moyen européen, hein, le taux de 20%, oui, on pourrait un peu l'augmenter. Et avec le produit de cette augmentation, on va baisser les charges sociales patronales. Alors, il y a une variante, c'est de partager entre les cotisations sociales patronales et les cotisations salariées, la réduction. Moi, j'ai toujours défendu la TVA sociale, mais en disant, attention, il y a des conditions. Et l'acceptabilité sociale d'une réforme, grosso modo, c'est d'avoir un partage équitable entre les cotisations salariées et les cotisations employeurs. Je vous donne les chiffres. On peut augmenter de 2 points, peut-être de 3 points, le taux normal. Ça fait 25 milliards, 3 points, 25 milliards. Avec 25 milliards, vous pouvez réduire grosso modo de 4 points et demi les taux de cotisation déplafonnés. Bon, ou non plafonnés en l'espèce. Et vous pouvez aussi concentrer ça sur la réduction des cotisations sociales salariées des bas salaires. Parce qu'on ne parle que des cotisations patronales, d'avoir un partage entre les deux. Ça a un sens, ça aide à la compétitivité des entreprises et ça répond à l'argument de nos collègues de gauche, consiste à dire la TVA est un impôt antisocial. Excusez-moi, ça fait 205 milliards.
De miser sur le fait de consommer à l'heure du dérèglement climatique, puisque à la même époque, hein, quand vous étiez avec François Bayrou, en 2007, vous disiez déjà qu'on aura une dette écologique.
Bien sûr. Bien sûr, il y avait 3 dettes. Il y a la dette que vous constatez, on est à 3300 milliards, les dettes publiques, hein, mais l'essentiel c'est la dette de l'État, hein, c'est 2600 milliards grosso modo sur 3300 milliards à peu près. Après vous avez la dette des retraites, parce qu'on a tiré des traites sur le futur, puisqu'on n'assume pas le financement dans le long terme. Et puis il y a la dette écologique.
Êtes-vous surpris par le bilan d'Emmanuel Macron en matière de finances publiques?
Par le?
Le bilan d'Emmanuel Macron.
Écoutez, un président qui dit on peut dépenser quoi qu'il en coûte, pour moi, n'est pas un homme d'État.
Même pendant le Covid?
Mais bien sûr, il fallait bien entendu soutenir. Mais je vous donne l'exemple, on a fait 140 milliards de PGE garantis à 85 voire 90%. Les banques étaient devenues des distributeurs. Quand on a interrogé le gouverneur de la Banque de France, disons, ça a servi à quoi les 140 milliards? Ben, il nous a dit qu'il y en a déjà 70 milliards qui n'ont pas servi à grand-chose et sont restés sur les comptes des entreprises. Voyez, donc, je donne cet exemple. Il fallait concentrer les aides. On est la démocratie occidentale qui a le plus soutenu tout le monde. Il fallait être plus sélectif.
Vous étiez très critique contre la Macronie depuis qu'elle est arrivée. Vous avez par exemple dit dans les colonnes de West France, vous critiquez son manque d'épaisseur politique, son arrogance intellectuelle, son mépris pour les collectivités territoriales et l'absence de toute considération sociale.
Oui.
Vous ne reniez rien de ces mots ?
Non. Les trois grandes critiques que j'ai toujours adressées à l'actuel président de la République, c'est un, la façon dont il exerce le pouvoir, sa conception hegelienne de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire de penser que parce que vous avez été élu par hasard président de la République, vous pouvez décider de tout et imposer votre volonté. Et de détruire les corps intermédiaires, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, les syndicats d'indépendants, les collectivités territoriales, les associations, etc. Vous voyez, ça, c'est la première critique. La deuxième critique, qui est tout aussi grave, c'est son absence totale de dimension sociale. Ce garçon n'a jamais consacré une minute de sa vie aux autres. On le voit d'ailleurs dans certaines de ses réactions. Quand on dit les pauvres, ils nous coûtent un fric de dingue. Enfin, c'est digne d'un homme d'État. Et puis, la troisième chose, c'est son incapacité à redresser les finances publiques. Il est arrivé à un moment où on était en haut de cycle, ces deux premières années, où on était quasiment dans le respect des 3%, si vous voulez. Et après, tout a dérivé.
Est-ce que vous pensez, comme Sophie Prima, la porte-parole du gouvernement qui vient de LR, que la Macronie vit ses derniers instants ?
Ah mais c'est tout à fait exact. Ou ce qui reste de la Macronie. Moi, ce qui me frappe à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a plus grand monde pour défendre le président Macron et la politique qu'il a menée. Les gens sont tous à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans moins de deux ans ? Quel est le candidat qu'on va soutenir ? Voilà, puisque dans la Ve République, ce qu'il faut, c'est choisir le cheval gagnant, miser sur le cheval gagnant, pour espérer avoir une petite contrepartie. Mais ce n'est pas à la hauteur des défis qu'a affronté notre pays.
Ouais, Il faut bien une élection présidentielle.
Ah mais de toute façon, elle aura lieu dans moins de deux ans maintenant, vous voyez. Mais la question, c'est quel programme et quels engagements et quel sera le courage des différents candidats pour affronter les grandes questions que doit affronter notre pays.
Vous savez qui vous soutiendrait, vous, Charles de Courson, en 2027 ?
Non, aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs qui sera candidat.
Édouard Philippe ?
Je ne sais pas. Qui sera... Oui, il a déclaré qu'il serait candidat, mais il y aura d'autres candidats. Il y aura probablement M. Retailleau, mais il y en aura d'autres. Peut-être M. Attal, peut-être d'autres.
Vous ferez votre choix.
Moi, je soutiendrai celui, un homme de centre droit, qui est le seul qui peut battre le candidat du Rassemblement national au second tour.
Elle se jouer sur quoi, à votre avis, cette élection, même s'il est un peu tôt pour le dire ?
Je pense qu'elle se jouera sur le redressement des finances publiques. Voilà. Et contrairement à ce que croit l'immense majorité de la classe politique, je pense que les Français ont muté et qu'aujourd'hui ils sont extrêmement inquiets et qu'ils sont prêts à accepter des réformes qu'ils n'ont jamais acceptées jusqu'à présent. Voilà. La deuxième chose, c'est sur le thème, disons, sécurité, immigration, hein, et d'arrêter la démagogie et quelles sont les mesures concrètes, et en particulier les mesures dans le cadre de l'Union européenne pour maîtriser les flux migratoires. Et puis, probablement aussi, peut-être, sur... Des valeurs de fond de la République, la défense des libertés publiques, le respect, si vous voulez, de la diversité française, vous voyez, sur ces thèmes, disons, de défense des libertés publiques.
Dominique de Villepin ?
Bon, je ne sais pas d'ailleurs s'il sera même candidat, mais...
Vous êtes deux gaullistes à qui on reproche d'être des gauchistes.
Attendez, moi je n'ai jamais été un gauchiste.
On vous appelle parfois le Che Guevara de la Marne.
Je suis tout sauf Che Guevara. Che Guevara avait beaucoup de succès auprès des jeunes générations, mais je ne suis pas de ceux qui veulent imposer mes idées par la violence et le cocktail Molotov, voire la Kalachnikov.
Oui, vous avez toujours été très strict sur les libertés individuelles, les libertés publiques. C'est
toujours.
C'est votre combat.
Oui, oui.
Je crois que je vais ressentir un sentiment d'écrasement.
Écrasement pour les anciens ministres et les nouveaux comme François Bayrou.
Un jour de rentrée parlementaire, à quoi pense un nouveau ministre ?
Mais il y eut aussi ce matin une émotion véritable, celle de Charles-Amédée Courson, nouveau député de la Marne.
Quelles sont les pensées d'un député un jour de rentrée parlementaire ?
Eh bien, venez. Venez. Vous voyez ici, c'est mon grand-père. C'est ça l'émotion que j'ai aujourd'hui. des morts en camp de concentration. Il a fait partie des 80 qui ont voté en 1940 contre les pleins pouvoirs.
Un nom sur le monument aux morts de l'Assemblée et un petit-fils qui s'assoira tout à l'heure dans son fauteuil.
Vous avez reconnu cette voix, Charles de Courson ?
Oui, même si elle était un peu, disons, un peu déformée par l'émotion. C'était le 2 avril 1993, quand j'ai été élu député. Et un journaliste interviewait les jeunes députés, on était nombreux, ils m'ont dit quels sont les sentiments que vous inspire voilà, cette journée. Alors je lui ai dit, suivez-moi. Je suis allé devant le monument aux morts. Où est mon grand-père ? Voilà.
Ça vous émeut à chaque fois quand on parle de lui. Léonel de Moustier, qui a voté contre les pleins pouvoirs du maréchal Pétain en 1940, parce qu'il était contre le sabordage de la République. Seul député droite à le faire, Laval le menace à la sortie du grand casino de Vichy. Monsieur le marquis, ça pourrait coûter très cher à vos intérêts, et il aurait répondu, c'est une question d'honneur.
Absolument.
Donc vous, vous vous retrouvez député des années plus tard, et c'est ça qui vous émeut.
Oui, et on était installé par ordre alphabétique, et je me suis retrouvé contre la plaque de mon grand-père, dans l'hémicycle. Coïncidence de la vie, voilà.
Pourquoi ?
Peut-être pas d'ailleurs, peut-être pas une coïncidence, mais je ne sais pas.
Pourquoi, à votre avis, votre grand-père perçoit-il qu'il ne faut pas aller voter ses pleins pouvoirs ?
Ah, il avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'il était pour le maintien de l'alliance. Il était un grand soutien de Reynaud. Voilà. Et donc, il était pour le maintien de l'alliance franco-britannique. Pour lui, l'armistice était une trahison de nos alliances. Voilà. Il était, comme ça a failli réussir, pour que l'ensemble des députés et sénateurs partent à Alger, dans le fameux Massilia, hein, et qu'on continue le combat. On avait encore... notre flotte était intacte, et c'était l'une des premières avec les Britanniques. On avait une marine extrêmement puissante. On avait encore une partie de l'aviation et on avait une partie des troupes, et des troupes qu'on appelait coloniales ou des troupes qui étaient stationnées en Afrique du Nord. Et on pouvait continuer le combat dans le territoire français, ouais, à Alger. Hein, c'était ça la thèse de mon grand-père. Ça, c'est la première raison. L'armistice trahison, comme il disait. La deuxième raison, c'est que la famille du côté de ma mère, ce sont des républicains. Hein. Mon arrière-grand-père a battu le dernier député royaliste, le comte de Clermont-Tonnerre, le marquis de Moutier, contre le comte de Clermont-Tonnerre. Il l'a écrasé d'ailleurs, aidé d'ailleurs par les forces républicaines à l'époque. Et donc, c'était la défense de la République. Moi, mon grand-père a refusé la main d'une de ses filles parce qu'il trouvait que son éventuel futur gendre était trop royaliste, vous voyez. C'était assez amusant. Et la défense des libertés publiques. Ça, il ne pouvait pas accepter cette abrogation, si vous voulez, des libertés publiques. J'ajoute une hostilité même personnelle à l'égard de Laval, qu'il faut rappeler que Laval était socialiste, il faisait partie de l'aile gauche en 14, il faisait partie d'ailleurs de ceux qui devaient être arrêtés, voilà, et qui n'ont pas été arrêtés. Et retrouver ce garçon qui allait de plus en plus à droite jusqu'à l'extrême droite au fur et à mesure qu'il s'enrichissait, ceci, mon père, avait donc un profond mépris à l'égard de Laval.
Vous aimez dire que vous venez d'une famille dont les positions ne sont pas celles de l'expression de leur milieu social.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a par exemple ce descendant, hein, Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui est un député de la noblesse pendant la Révolution, j'en parlais en introduction. Il vote la mort du roi Louis XVI, il meurt en 1993, assassiné par un royaliste qui lui reproche ce vote qui s'est joué à une voix près. Et vraisemblablement, il y aurait un tableau de David qui serait allé avec celui de la mort de Marat, qui aurait dû illustrer cet assassinat-là.
Ah ben c'est pas une hypothèse. David a peint deux tableaux. Un qu'on a conservé, qui est la mort de Marat, hein, et la mort de Le Pelletier de Saint-Fargeau, puisque mon ancêtre, Le Pelletier de Saint-Fargeau, était président de l'Assemblée nationale. Et il a voté la mort du roi, et il a été assassiné le lendemain. par un royaliste, vous voyez. Et mon arrière-grand-père, donc, a battu aux élections législatives le dernier député royaliste du Doubs. Et il a fait partie de ce qu'on appelle les républicains opportunistes. On les appelait républicains opportunistes. En fait, c'était un homme de droite modérée. Et mon grand-père aussi, ils étaient tous les deux, ils étaient pour le vote des femmes. C'était pas du tout une droite réactionnaire, pas du tout.
Alors, on a entendu, vous l'avez reconnu vous-même, le 2 avril 1993, un extrait d'un reportage du journal de l'époque de 13h sur Antenne 2. Vous étiez UDF. Est-ce que vous diriez que vous êtes toujours centriste, Charles de Courson ?
Oui, toujours. Moi, je n'ai jamais changé. Jamais. J'ai jamais changé. J'ai toujours été centriste parce que l'UDF était composé de plusieurs partis. Moi, j'étais au Centre des démocrates sociaux et je suis toujours resté un homme de centre-droit, c'est-à-dire pro-européen, pour un libéralisme économique encadré et pour une solidarité sociale qui ne tombe pas dans la cistanat. C'est très simple, les trois valeurs qui ont fondé mon engagement politique.
Mais pourtant, vous ne soutenez plus François Bayrou.
Non, nous avons rompu le soir, enfin du soir, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007. J'étais l'un de ses lieutenants avec Hervé Morin et d'autres. Et donc, il avait fait 20% des voix, je fais simple. Sarkozy avait fait 30% des voix. Donc, à eux deux, ils avaient fait 50% des voix. Donc, pour nous, il nous apparaissait évident qu'il fallait négocier un accord politique avec Nicolas Sarkozy, qui n'attendait que cela. Il a refusé. Et nous avons appris bien plus tard qu'il avait même eu des contacts avec Ségolène Royal. Il n'a jamais voté pour Ségolène Royal. Il a voté blanc.
François Bayrou ?
Oui. Il a dit « En aucun cas, je ne voterai pour Nicolas Sarkozy ». Et je me souviens très bien de cette discussion avec Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore président, me demandant « Mais Charles, pourquoi il me hait, François Bayrou ?» Voilà. Je lui dis « Écoute, je ne suis pas dans ta tête, je ne suis pas dans la sienne, mais est-ce que tu accepterais une rencontre secrète avec lui pour discuter de cela ?» Il m'a dit « Quand il veut, où il veut ». François Bayrou a refusé.
En 2007, d'ailleurs, vous êtes réélu, comme d'habitude, j'allais dire, dans la Marne législative. Cette fois, vous êtes sous étiquette majorité présidentielle. À quel moment et pourquoi se fait la rupture avec Nicolas Sarkozy ?
Elle s'est faite sur plusieurs choses. Elle s'est faite sur le problème, disons, on va dire, d'éthique. Ouais. Et notamment sur l'affaire qui allait durer des années devant les tribunaux, qui était celle d'un homme politique qui a contribué à décrédibiliser la classe politique. Je veux parler de Bernard Tapie. Voilà. Moi, j'ai combattu Bernard Tapie. Et j'étais au conseil d'administration de l'EPFR qui gérait la liquidation des affaires, notamment Tapie et de bien d'autres. Et je n'ai jamais cédé, vous voyez, car Bernard Tapie, contrairement à ce qu'il a voulu expliquer, n'a jamais été victime du Crédit Lyonnais. C'est le Crédit Lyonnais qui a été victime de Tapie. Vous voyez. Et donc on a gagné. Je n'aurais qu'un regret qu'il soit mort la veille de la publication du dernier arrêt au pénal, cette fois. Voilà.
En tout cas, c'est vrai que vous, l'éthique, c'est quelque chose qui vous caractérise. Votre ami, je pense, Jean-Louis Bourlange, qui est député Modem, a été à la Cour des comptes avec vous, à l'ENA avec vous, me semble-t-il, promo Michel de l'Hôpital, en 1977. Et alors voilà ce qu'il dit de vous. À l'ENA et à la Cour des comptes, il était le meilleur d'entre nous, le plus travailleur, le plus compétent, qui savait tout sur tout, toujours d'une gentillesse parfaite. Et il raconte une anecdote, vous deviez contrôler à la Cour des comptes la SNCF, vous pouviez avoir des billets de train gratuits et vous les avez refusés au détriment de tous les autres qui en auraient bien profité. C'est ce que dit Jean-Louis Bourlange.
Oui, alors en fait, à peine arrivé à la Cour des comptes, on m'a demandé d'engager un contrôle sur la SNCF. Et quelques semaines plus tard, je reçois mon courrier une carte de circulation gratuite, toute ligne première, la rouge, ce qu'on appelait. Je fais une lettre pour la renvoyer en disant que quand on contrôle l'institution, on ne peut rien accepter d'elle, sinon on n'est pas indépendant. Et avant d'expédier cette lettre, j'en parle à mon contre-rapporteur qui me regarde un peu de travers et me dit « Mais moi j'en ai une ». Et je lui ai dit « On n'a pas la même conception de l'éthique ». Donc j'ai quand même envoyé cette lettre. Et bien des années plus tard, un ancien secrétaire général de SNCF m'a dit « Vous savez, ça a fait du ramdam votre lettre, parce que vous étiez le premier à renvoyer cette carte ». Oui.
Jean-Louis Bourlange, toujours le même, il raconte qu'en 1980, vous lui auriez dit « Sans mes convictions religieuses, j'aurais pu voter communiste ».
Oui, en fait, c'était, je avais tenu ces propos parce que j'ai toujours essayé de comprendre les choses, vous voyez. Et j'ai toujours pensé que le marxisme n'expliquait pas grand-chose. Ouais, in fine. Voilà. Et que ce qui est le plus fondamental dans les communautés urbaines, c'est la capacité des êtres humains à innover, à inventer, vous voyez, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine scientifique, vous voyez, que c'est ça la créativité et que c'est dans la liberté. Or, le marxisme a toujours, partout où il s'est installé, a supprimé toutes les libertés publiques.
France Culture. Sens politique, Astrid de Villene.
Ils sont en la loi. Alors je voulais appuyer sur une chose en plus, c'est qu'ils se mettent en danger. Parce qu'à un moment donné, le Conseil constitutionnel va mettre son nez dans cette affaire. Il y aura des recours. On est assez sidérés, Charles de Courson et moi-même, puisqu'on nous a refusé la consultation de ces documents, dont je rappelle que c'est un droit constitutionnel. Qui est octroyé au président de la Commission des Finances et au rapporteur général du budget. Considérez que nous sommes dans une situation extrêmement grave. C'est-à-dire que nous ressortons aujourd'hui sans documents qui ont été signés par le Premier ministre. Documents que nous devrions avoir, au moins en résumé, mais quand même en résumé détaillé, depuis maintenant 2 mois. Donc, quelle est cette démocratie qui prive les représentants du peuple, et notamment le président de la Commission des Finances et le rapporteur général, d'avoir accès à des documents auxquels ils ont droit depuis maintenant des mois? C'est absolument sidérant. Nous sommes aujourd'hui très... On est assez mesurés, Charles et moi, quand même, malgré nos différences politiques. Mais on est en colère, voilà. Et on est inquiet par cette dérive antidémocratique et en tout cas contraire aux droits du Parlement.
Vous vous souvenez de ce moment-là, Charles de Courson?
Ah mais tout à fait. Je fais partie de ceux qui ont toujours défendu les droits du Parlement. Voilà. Et on était sous le gouvernement Attal. Ouais. Et on nous a refusé ce qu'on appelle les lettres plafonds, c'est-à-dire signées par le Premier ministre, adressées à chacun de ses ministres pour préparer le budget. Bien. Et donc, en plus, il y avait un problème juridique, c'est que le gouvernement Attal était démissionnaire. Et le Premier ministre a quand même signé des lettres plafonds, considérant que c'était quelque chose de courant. Pour moi, il n'avait pas le droit de faire cela. Mais en plus, nous le refuser, ça c'est inadmissible. J'ajoute que quand Michel Barnier lui a succédé, moi j'ai posé la question à Michel, il m'a dit, moi pas de problème, vous me le demandez, je vous les donne.
Hein. Mais pourtant là, on est le 17 septembre 2024, vous êtes à côté de Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, vous en tant que rapporteur général du budget, vous sortez bredouille de Matignon. Vous
oui.
N'avez pas obtenu ces lettres finalement?
Non, on ne les a pas obtenues. Hein, alors que Michel Barnier, moi, m'a dit, moi je te les aurais données. Voilà, il avait raison.
Et il a raison, Éric Coquerel, quand il dit que c'est anticonstitutionnel et que vous alliez saisir les sages?
Oui, le problème, si vous voulez, c'est une violation de la loi organique, pour être précis, qui fait partie du bloc constitutionnel, effectivement. Et le problème, c'est la sanction de ce refus, puisqu'ils ont reçu les ordres. C'est d'ailleurs triste, puisqu'on avait commencé à aller au ministère des Finances, où c'est la secrétaire générale qui nous a accueillis. Et quand tu lui as dit, mais madame, il y a des lois dans la République, vous violez l'article temps. Qui vous a donné cette instruction? Vous savez ce qu'elle nous dit? Le directeur de cabinet du Premier ministre. Je lui ai dit, mais madame, vous êtes secrétaire général du ministère des Finances et vous obéissez directement au directeur de cabinet du Premier ministre? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette République?
Pourtant, d'habitude, vous estimez que les administrations ne sont pas assez dirigées par les ministères.
Tout
notamment
à fait.
Bercy.
Mais tout à fait, c'est bien la preuve, puisque là, c'est une décision du directeur de cabinet qui appelle directement la secrétaire générale du ministère des Finances. Mais elle ne dépend pas du directeur de cabinet du Premier ministre, mais elle dépend de son ministre et du directeur de cabinet de son ministre. Voilà. Mais cette République, si vous voulez, ne fonctionne plus conformément à la Constitution. Le président de la République décide, par exemple, on va mettre 1 milliard supplémentaire sur telle chose. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cela? Il devrait dire, je proposerai au Premier ministre de proposer au Parlement. Hein, il n'a pas de majorité en plus, vous voyez. Alors, on annonce des choses comme ça. C'est pas le respect des institutions républicaines.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire depuis 1993 sur l'évolution de la vie politique française, Charles de Courson? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, il y avait 4 courants. Il y avait les socialistes, il y avait les communistes, il y avait l'UDF, c'est-à-dire le centre droit, et il y avait la droite, disons, plus traditionnelle, plus à droite, qui s'appelait RPR, UDR, enfin, etc. Bon. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. On a une extrémisation de nos concitoyens qui en ont tellement marre de la situation, qui ont voté pas mal à l'extrême gauche et puis de moins en moins, et beaucoup à l'extrême droite. Ouais, on a quand même aujourd'hui, dans les derniers sondages, les différents courants d'extrême droite sont à 37%. Ouais. Par contre, l'extrême gauche, la France insoumise, est dégringolée d'une vingtaine de pourcents à moins de 10%. Donc éclatement, si vous voulez, des différents courants politiques, plus de majorité, et un recrutement des parlementaires, au moins à l'Assemblée nationale, allez, on va être gentil, qui sait, d'une certaine façon dégradé, mais ça, c'est la responsabilité de chaque parti. Il y a pratiquement très très peu de députés qui sont élus à l'extérieur de partis.
Alors vous avez été réélu 8 fois, si on a bien compté, toujours dans la même circonscription de la Marne, en 97, en 2002, au premier tour, 2007, premier tour, 2012, 2017, 2022, 2024. Et là, pour la première fois, vous avez quelqu'un qui vous passe devant. C'était l'année dernière, le candidat du Rassemblement National, Thierry Besson. Il fait 46 et vous 42. Vous finissez par l'emporter. Comment vous l'analysez ? C'est l'effet Bardella ou c'est votre trop grande longévité ?
Non. Pour moi, ça n'est pas lié à l'usure, comme on dit, à l'usure. C'est beaucoup plus profond. J'ai une circonscription massivement rurale, qui va de la Côte des Blancs, c'est-à-dire le top du Champagne, vous voyez. C'est le secteur rural où le revenu est le plus élevé de France, vous voyez. Donc c'est pas un problème de niveau de vie. C'est pas un problème, c'est l'exaspération. Sur quoi ? Alors, c'est très varié sur les milieux les plus modestes. C'est le ras-le-bol d'avoir le sentiment que quand on travaille, on a un niveau de vie pas très différent de ceux qui travaillent pas. Donc ça révolte les gens.
On vous en parle.
Et bien sûr. Et beaucoup de ces personnes votent Rassemblement National. C'est ceux qui sont plus, qui ont des revenus plus élevés, qui vous disent, il y en a marre, on est accablé d'impôts. C'est aussi la révolte contre ces réglementations, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est l'ensemble de ces éléments qui fait que l'opinion publique est accro. Et chez moi, ceci profite à l'extrême droite. Moi, je suis entouré par 5 circonscriptions où c'est un Rassemblement National ou un Ciottiste qui a été élu. C'est vous dire. Moi, je ne me représentais pas. Le candidat à Rassemblement National était élu au premier tour.
Et en 2027, vous vous représenterez, Charles de Courson, pour un 9e mandat ?
Écoutez, si vous voulez mon sentiment, je pense que cette mandature ira qu'à un cas jusqu'à son terme et que le nouveau président ou la nouvelle présidente dissoudra immédiatement. Donc, peut-être, oui, je peux encore trancher, mais c'est dans les choses, ça dépend de mon état de santé et puis de ma motivation et puis de la situation surtout politique du pays, tant que je peux être utile.
Une question de David Ames. Le mandat parlementaire et plus largement l'engagement en politique sont-ils toujours aussi attractifs qu'en 93 ?
Ah non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Moi, j'ai toujours sur moi ma feuille de paye. Parce que quand les gens me disent « Ah ouais, vous êtes vachement bien payé », je dis « Tu veux une feuille de paye ? Tiens, là voilà, c'est toi qui me payes. Moi, après impôt, j'ai 4700 euros par mois. Bon, c'est mieux que le SMIG, qui, je le rappelle, est à 1400. Voilà. Mais de là à dire, moi, quand j'étais magistrat à la Cour des comptes, je gagnais beaucoup mieux ma vie qu'en devenant parlementaire. Mais c'est pas ce qui me motive dans la vie.
Qu'est-ce qui vous fait courir, Charles de Courson ?
Pas courir, réfléchir et essayer d'agir. Vous savez, moi, j'ai beaucoup reçu dans ma vie. Je fais partie, je suis né dans une famille d'aristocrates, fortunés, qui avaient des convictions. Ouais. Et donc j'ai beaucoup reçu, et on m'a toujours appris, je partage cela, que quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner. Voilà, ça c'est ma première motivation. La deuxième chose, c'est que j'aime les gens. Vous voyez, il y a des gens qui sont des cyniques absolus dans la vie politique, y compris, vous êtes des cyniques dans tous les groupes politiques. Moi je ne suis pas du tout cynique, j'aime les gens, et j'aime réaliser, vous voyez. Mais j'ai eu beaucoup plus de satisfaction dans ma vie politique locale que dans ma vie politique nationale. Ouais. Parce que j'ai rabâché pendant 33 ans qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et alors, ce que j'espère, c'est que l'opinion publique va continuer à basculer. Voilà. Et que c'est sous la pression populaire qu'on réussira, si vous voulez, à réformer ce pays, à faire les grandes réformes structurelles dont le pays a besoin pour se redresser.
Vous avez encore de l'espoir ?
Oui, oui, parce que je pense que c'est le dos au mur que les Français acceptent des réformes qu'ils ont refusées pendant 10-20 ans, vous voyez.
Une question de Vincent qui nous écrit sur le réseau social Instagram. Regrettez-vous le temps où l'humour existait à l'Assemblée ?
Bah écoutez, il y a encore certains qui ont de l'humour. J'espère en avoir de temps en temps. Du moins, c'est ce que me disent mes collègues, que souvent je manie l'humour. Et je pense que je le dis souvent à des collègues qui ont tendance à hurler, etc. Je dis, écoute, manie l'humour, c'est beaucoup plus efficace que de crier.
Une question de Marie sur Instagram. Regrettez-vous aujourd'hui vos propos sur la tenue de Cécile Duflot à l'Assemblée ?
Mais pas du tout. J'avais dit que Cécile Duflot était beaucoup plus jolie quand elle portait une robe que quand elle portait un blue jean. Ça n'a rien de sexiste, c'est au contraire.
On a pu vous le reprocher à l'époque, elle la première.
Bah écoutez, moi c'était pas du tout alors une critique à son endroit. Je trouve qu'elle était beaucoup mieux quand elle avait une jolie robe, voilà.
Est-ce que vous êtes toujours favorable, dans certaines circonstances, à la peine de mort ?
Moi, je n'étais pas pour l'approbation, la suppression de la peine de mort. La peine de mort n'était pratiquement plus prononcée. Mais ceux qui étaient favorables à la suppression de la peine de mort, je leur disais à ce moment-là, il faut qu'on établisse une perpétuité incompressible. Ce qu'on a fini par faire. Mais il n'y a eu qu'un cas ou deux depuis, si vous voulez. Donc ces cas-là étaient extrêmement limités.
Un jour en 2017, je vous ai croisé sur le boulevard Saint-Germain, à quelques mètres du Palais Bourbon. Je vous ai déjà demandé si vous alliez vous représenter à l'époque. Et vous m'avez répondu, ça fait 20 ans que je prédis l'effondrement du monde politique. Et je raterai ça, bien sûr que je me représente.
Oui, mais c'est toujours l'une de mes motivations. C'est que je pense que ce pays ne se réforme qu'au fond du trou. Et comme je pense qu'on n'est plus très loin, bah peut-être que je pourrais être utile si mes électeurs me reconduisaient leur confiance.
Donc il ne s'est pas effondré selon vous, le monde politique ?
Ah, on n'en est plus très loin. Il est complètement éclaté, il n'y a plus aucune majorité. Donc ça ne peut pas être durable.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec toujours plus de confiance ainsi qu'une force grandissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le coût. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Et même si, bien que je n'y croie pas un seul instant, cette île ou une grande partie de cette île était asservie et affamée, alors notre empire, au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait de lutter. Jusqu'à ce que, quand Dieu le voudra, le nouveau monde, avec tout son pouvoir et sa puissance, vienne secourir et libérer l'ancien.
C'est votre choix, Charles de Courson, Winston Churchill, avec la voix de Léa Varin, qui fait la traduction Premier ministre devant la Chambre des communes à Londres le 4 juin 1940. Pourquoi cet extrait ?
Parce que Churchill, quand vous voyez sa carrière politique, il s'est à peu près trompé sur tout. Surtout. Mais il ne s'est pas trompé sur le diagnostic qu'il a porté sur la montée, l'apparition du nazisme et son développement en Allemagne, seul dans son parti politique. Les conservateurs, jusqu'au dernier moment, essayaient de passer un accord avec M. Hitler, comme il disait. On va sauver la paix. Bon, ça a été les accords de Munich, etc., dénoncés par Churchill. Et si Churchill est devenu Premier ministre, c'est quand même très bizarre, parce que les conservateurs étaient majoritaires. C'est parce que les travaillistes ont dit on est prêt à un gouvernement d'union nationale si c'est avec Churchill. Avec Chamberlain, ça sera non. Et c'est comme ça que Chamberlain, qui était en plus malade, il avait un cancer, si vous voulez, a accepté de se retirer et a appuyé Churchill. Et Churchill, voilà, il a résisté. Voilà. Il n'a pas aboyé avec les loups, hein, il a résisté. Et Churchill avait quelques convictions. Il était un vieux réactionnaire au sens où il croyait encore à l'Empire britannique. Enfin, vous voyez, il croyait encore à tout ça. Vous voyez. Mais là, ils n'ont pas donné tous les extraits quand il invoque les valeurs de la Grande-Bretagne. Ouais. Ce n'était pas un problème de royauté. Ben non, non. Les valeurs, vous voyez, la défense de l'homme, de l'humanité, de la lutte contre l'oppression et contre ces régimes totalitaires. Et après, il fera la même chose, juste après-guerre, alors qu'il n'est plus au pouvoir, quand il dénoncera le mur de fer, et qui contribuera à la lutte contre le communisme, qui était l'autre système totalitaire.
Votre père a été résistant. Vous racontez que vous aviez 12 ou 13 ans quand, pour la première fois, il vous en parle.
Oui, oui. Oui, oui, mon père s'est engagé par patriotisme dans les réseaux anglais, le fameux réseau Prosper. Bon, voilà. Et vous savez, le réseau Prosper a été, entre guillemets, liquidé. Alors, on n'a jamais su exactement, est-ce que c'est Churchill qui a donné l'ordre au chef du réseau, qui était un réseau qui couvrait toute la Normandie, tout le Nord, hein, qui était équipé, entraîné, ils avaient des postes radio, ils avaient des armes, etc. Et leur, en juillet 43, en 8 jours, 300 membres du réseau ont été arrêtés. Et donc, la grande question, c'est qui les a dénoncés? Alors, les indices, c'est Churchill qui a donné l'ordre au chef du réseau, qui l'a fait parachuter en France, de livrer le réseau pour intoxiquer les services secrets allemands. Et l'autre thèse qui est qu'il y avait un des membres, il y a eu un procès d'ailleurs à son endroit, qui était agent double, ce qui était vrai. Mais lui a dit que je suis agent double sur instruction des Anglais. Voilà. Alors, peu importe, mais mon père donc a connu un an de proscription.
Il a été torturé par la Gestapo.
Oui.
Et
il a été sauvé par le débarquement.
Il est sauvé par le débarquement et vous avez gardé de lui ce précepte. Tu sais, dans ces moments, ceux sur lesquels tu crois pouvoir compter s'enfuient et ceux qui t'aident ne sont pas forcément ceux que tu attendais.
Absolument.
Pardonnez-moi de vous avoir ému, Charles de Courson. Merci d'être passé par les studios de France Culture, député de la Marne, rapporteur général du budget. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France. Merci à Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Anthony Thomasson, à la vidéo Félix Delacour. Très bel après-midi sur France Culture.